Bonjour, shalom, assalam alaikum, mifonyedea. En cette journée du dernier vendredi du mois de septembre 2023, la radio du littoral vous salue depuis Agbodrafo, chef-lieu de la commune Lac 3. Agbodrafo, qui portait fièrement le surnom de Porto Seguro, entendait par la porte de sécurité dans un passé assez lointain. Mais Agbodrafo, aujourd'hui menacé dans son existence même par l'avancée sans cesse inquiétante de la mer sur ses terres. Nous sommes en plein dans le phénomène d'érosion côtière qui menace non seulement notre pays, le Togo, mais nombre de pays qui longent le golfe de Guinée. La solution de lutte contre l'érosion côtière et la restauration des terres, le Togo et ses voisins la recherchent à travers le projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, le projet Waka Recip, dont la branche togolaise. Chez nous ici au Togo, de grands travaux ont été réalisés sur le tronçon de côte compris entre Agbodrafo et Aného. Les mêmes travaux qui vont continuer prochainement entre Agbodrafo et Gbodjome. Les travaux réalisés ont été éprouvés par un phénomène de submersion marine survenu dans la nuit du 19 au 20 septembre dernier. Quelle attitude les populations côtières doivent-elles adopter face à des phénomènes comme la submersion marine? Voilà justement le thème de la radio du littoral de ce vendredi 29 septembre 2023. Pour l'occasion, j'ai à mes côtés les consoeurs et confrères, Juliette Tomdem Kamde de Radio Lomé. Tomdem, bonjour.
Sass, bonjour. Tout le monde, bonjour à vous. Et sachez que c'est avec beaucoup de compassion que Radio du Littoral déroule ce numéro.
Merci. Tomdem, à ma droite, Jean-Marie Leblanc de Radio Taxi FM, bonjour.
Bonjour Sass, messieurs dames, bonjour.
Et à ma gauche, Anoumou Félix Dossavi de RTDS Aného. Bonjour Anoumou.
Bonjour auditrice, bonjour auditeur.
Moi-même, je suis Kodjo Tété Innocent Sass Gaou de Radio Canal FM. Et nous bénéficions de l'accompagnement technique de Michel Kokou Vitogbe Tomega et Gérald Kodjo Akucha ici sur place, pendant que la coordination est assurée depuis la base Canal FM à Lomé par était Thomas Datevi. Nous saluons les autres médias partenaires de la radio du littoral qui nous accompagnent ici et aussi et surtout les nombreux auditeurs qui nous écoutent sur divers médias ici au Togo et en Afrique et dans le monde entier. D'abord, les auditeurs, nous vous attendons à partir de 12h sur le numéro 91 36 63 75. Vous pourrez poser des questions ou émettre vos commentaires sur les sujets que nous aurons développés d'ici là. Et nous exprimons notre profonde gratitude à la commune Lac 3 qui nous accueille encore aujourd'hui avec en tête Monsieur le maire Edoué Victor Gone à nos côtés ici. Également le chef canton d'Agbodrafo, Apeto Sowa, Aholu Sedo Mensan Asiakole 6 qui a exceptionnellement fait le déplacement dans les jardins de la commune Lac 3. Rebonjour encore une fois. Eh bien, comme c'est de tradition, nous allons prier Monsieur le maire de nous rejoindre au plateau, Monsieur le maire, pour nous délivrer le mot de bienvenue et d'accueil et nous assurer que nous pouvons bien faire l'émission dans ces jardins. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour, Sass.
Encore une fois, merci. C'est la troisième, voilà quatrième fois que vous nous accueillez. Nous attendons votre mot d'accueil, monsieur le maire.
Merci, Sass. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons ce matin pour la énième fois dans notre émission et sur un sujet qui est très pertinent pour nous dans la commune Lac 3 en ces moments où il y a deux semaines de cela, il y a eu un événement. C'est avec beaucoup de plaisir lorsque vous êtes là avec le projet Waka pour pouvoir échanger avec la population de la côte sur ce sujet. Donc, sur ce, je vous donne l'autorisation, l'accord de pouvoir animer l'émission.
Merci, monsieur le maire. Je rappelle que en novembre 2022, nous étions ici même dans vos jardins pour faire une réception avant terme des travaux de protection de la côte. Et vous l'avez dit, entre le 19 et le 20 mai, il y a eu ce phénomène de haute marine. Et c'est justement le thème de l'émission. Quelle attitude les populations doivent-elles adopter devant de tels phénomènes? Merci le maire de nous accueillir encore une fois.
Merci à vous, Sax.
Merci. À côté du maire, je le disais tantôt, c'est le chef canton d'Agodrafort à Pétor, Mensan, à Siakolé 6, qui nous fait l'honneur de se déplacer pour nous rejoindre à ce plateau, à Pétor que nous accueillons. Je ne sais pas si je continue avec Apeto en français ou bien dans nos langues. Apeto, Bekamilado.
On va en français.
On nous allons en français. Merci beaucoup, monsieur Apeto, Vincent Asiakole 6. Vous nous faites l'honneur de nous rejoindre dans cette émission. Mais nous vous prions de nous accueillir selon les us et coutumes pour que les divinités et la modernité nous fassent animer une bonne émission. Apeto.
Déjà, ma présence à vos côtés ici signifie que nous vous donnons notre plein accord pour que l'émission se déroule dans de bonnes conditions.
Merci.
Et je voudrais aussi remercier le projet Waka qui a fait appel au service des médias pour pouvoir donner de la visibilité à l'œuvre qu'il accomplit sur le terrain.
Merci beaucoup. Nous avons la bienvenue de l'administration. Nous avons la bienvenue de Apeto. À travers eux, c'est les divinités, c'est les membres des ancêtres et le pouvoir administratif qui nous accueille. Apeto, merci beaucoup.
Merci.
Mais vous restez à nos côtés en continuant à nous protéger par votre solennité. Eh bien, nous allons prier à présent notre cher ami docteur Adou Rahim Alimi Assimiou. Vous nous excusez si nous écorchons un peu votre nom. Vous êtes le coordonnateur du projet Waka Recipe Togo. Bonjour monsieur le coordonnateur.
Bonjour Sas.
Ça fait un an et demi que Waka nous fait promener à travers monts et vallées pour parler de votre projet, de vos activités, de ce que vous faites ici et là. Merci. Mais comme aiment le dire les enseignants, la meilleure pédagogie, c'est la répétition. Nous sommes d'accord, monsieur le coordonnateur?
Très, très d'accord.
Eh bien, voulez-vous nous rappeler le projet Waka? Qu'est-ce que c'est? Depuis quand vous existez et ce que vous faites au jour le jour?
Merci beaucoup, Sass. Je voulais, avant de répondre vraiment à votre question, vous dire tout le bonheur que j'ai de vous retrouver parce que, si vous le constatez, je crois qu'on a eu un saut par rapport à l'animation de l'émission. Donc aujourd'hui que nous nous retrouvons, vraiment c'est un bonheur renouvelé. Je voudrais, par rapport au projet Waka, pour répondre à votre question, dire d'abord que le projet Waka, en fait, c'est un projet qui porte une grande ambition du pays. L'ambition d'apporter une réponse durable aux questions majeures, aux problèmes majeurs que vivent les communautés du littoral, notamment l'érosion côtière dont vous venez de faire cas dans votre note introductive. Le projet Waka aussi, c'est un projet régional parce que les phénomènes auxquels le projet s'attaque sont des phénomènes pour la plupart transfrontaliers. Et dans ces conditions, vous savez, c'est des problèmes qu'on ne peut pas gérer de façon cloisonnée. Donc, c'est des problèmes qu'il faut gérer de façon régionale et le projet Waka a été bâti sur cette logique-là pour faire en sorte de faire fonctionner les coopérations et les collaborations pour régler les problèmes qui ont un caractère transfrontalier, comme l'érosion côtière d'ailleurs. Bon, c'est un projet qui, globalement, vise à renforcer la résilience des communautés. Et je disais que c'est un projet régional. Aujourd'hui, le projet compte 9 pays participants. Nous avions commencé avec 6 pays, que je vais citer, le Togo, le Bénin, la Mauritanie, le Sénégal, Sao Tomé-Principe, je crois que si ce n'est pas oublié, un. Et maintenant, il y a 3 autres pays qui ont rejoint le groupe, le Ghana, la Guinée-Bissau et la Gambie. Donc, de plus en plus, C'est un projet qui va s'étendre sur l'ensemble des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest et voire même de l'Afrique centrale. Comme vous le savez, le problème d'érosion aujourd'hui, c'est un problème très important qui est exacerbé un peu par tout le phénomène de changement climatique qui fait que nous avons par moment des phénomènes comme ce que nous venons de vivre aujourd'hui, ainsi de suite. Donc, pour me résumer, le projet intervient dans 5 domaines principaux. La protection côtière, et la lutte contre les inondations, la lutte contre les pollutions, la conservation des écosystèmes à haute valeur de biodiversité et le renforcement des moyens d'existence des populations à travers les sous-projets communautaires, ainsi de suite.
Merci pour ce condensé. Les auditeurs habitués de la radio du littoral savent déjà que nous parcourons ces 5 domaines à travers diverses localités. Quand nous étions à Nyrokopé dans le Vaud, quand nous étions au chenal de Gbaga dans le canton de Agouégan, quand nous étions dans la préfecture de Horto et même de Lavé, à chaque fois que nous nous déplaçons, une fois par mois, nous parcourons l'un ou l'autre domaine qu'aborde le projet Waka et que le coordonnateur vient de nous rappeler. Merci, monsieur le coordonnateur, mais vous restez à notre disposition. À présent, je passe la parole à Jean-Marie Leblanc. Bonjour Jean-Marie.
Rebonjour Sass.
Eh bien, c'est avec vous maintenant que nous allons redécouvrir les travaux que Waka, Recife Togo, effectue pour protéger la côte dans un premier temps et puis également aborder ce phénomène de submersion marine que les localités ici ont vécu il y a quelques jours.
Alors, merci beaucoup, comme venait de le dire le coordonnateur, par rapport donc à l'objectif du projet Waka. On va jeter juste un regard dans le rétroviseur pour revenir sur les travaux proprement faits par Waka. Et là, j'ai comme interlocuteur le César Eusebio, qui est ingénieur génie civil côtier senior. Alors, monsieur l'ingénieur, bonjour.
Oui, bonjour Jean-Marie.
Merci d'être là pour nous éclairer sur certains points. Je rappelle une fois encore que vous êtes ingénieur, génie civil, côtier, senior. Alors, Waka, comme venait de le dire tout à l'heure le coordonnateur, effectue donc les travaux de protection côtière au Togo. Alors, un regard dans le rétroviseur pour évoquer avec précision ces travaux. Qu'est-ce que Waka fait concrètement?
Ok. Waka, comme l'a dit le coordonnateur national, principales activités, vous avez la protection côtière. Et donc, dans ce cadre, nous sommes intervenus sur le segment de côte à Godrafort, à la frontière. Tout à l'heure, le coordonnateur national vous disait que c'est un problème régional. Donc, l'intervention a été faite ensemble avec le Bénin, justement parce que pour les travaux de protection côtière et de lutte contre l'érosion, la dérive naturelle des sédiments allant donc du Ghana à l'ouest vers le Bénin, l'est, si nous résolvons le problème chez nous, ça crée des problèmes au Bénin. Donc, ces travaux ont été faits ensemble avec le Bénin. Donc, côté Togo, qu'est-ce que nous avons fait déjà entre Agbodrafort et la frontière? À Agbodrafort ici, nous avons construit 7 nouveaux épis, de longueur variant de 65 à 75 mètres. Donc, 7 nouveaux épis ont été mis en place pour lutter contre l'érosion dans la ville d'Agbodrafort. L'érosion, rapidement je vais l'expliquer, c'est empêcher que la mer avance sur les terres, empêcher que la mer descende les infrastructures au niveau d'Agbodrafort ici. Ceux qui connaissent la ville, vous allez voir que la mer était arrivée presque à côté de l'ancienne église catholique. Maintenant, avec ces 7 ouvrages que nous avons mis en place, la mer ne peut plus avancer et descendre, avancer sur les terres et descendre les maisons. Donc, avec ces 7 ouvrages qui ont été faits, nous avons également rechargé la plage, donc le rechargement des casiers, avec du sable que nous sommes allés chercher en haute mer à 10 km donc, des côtes. Donc ça, voilà ce qui a été fait pour la ville d'Agbodrafort. Maintenant, de Aného et à la frontière, qu'est-ce que nous avons fait? Le gouvernement avait déjà mis en place un bon système de protection. Nous les avons renforcés. Donc, nous avons allongé 6 ouvrages, 6 épis de 10 mètres. Nous les avons réhabilités et allongés de 10 mètres pour permettre à ce que ça joue bien leur rôle, pour que ça empêche, comme je l'ai dit, que la mer de venir, ou bien du moins la mer d'avancer sur les terres. Et en plus de ça, il y avait déjà, dans la, comme je l'avais dit, le gouvernement avait déjà mis en place un ouvrage parallèle à la mer que nous appelons Brise-Lames pour protéger les riverains, surtout derrière l'ancien palais royal, c'est-à-dire l'ancienne cathédrale de la ville d'Anéro, pour protéger cette zone parce que c'est d'ailleurs l'objet de pourquoi nous sommes là aujourd'hui, parce que par moment, hein, de façon cyclique, il y a des submersions marines qui se passent dans cette zone, c'est-à-dire la mer sort de son lit et vient inonder les habitats. Donc, nous avons prolongé l'ouvrage existant qui avait été mis en place dans les années 1987. Nous avons prolongé ça de 200 mètres. Donc, ce qui fait qu'il y a 400 mètres maintenant qui sont protégés là-bas pour empêcher que la mer vienne inonder, donc vienne faire de la submersion marine, pour empêcher que la mer vienne faire la submersion marine là-bas. En plus de cela, comme la, vous voyez la topographie de la ville d'Anéro, elle est presque au même niveau. L'altitude de la ville est presque au même niveau, donc c'est une ville basse par rapport à la mer. Et donc, ce n'est pas seulement au niveau du palais, de l'ancien palais royal, mais c'est pratique jusqu'à l'embouchure, jusque vers la, derrière la, la mairie d'Anéro. Donc, pour empêcher également que cette zone ne soit envahie par les submersions marines, nous avons mis en place ce que nous appelons un condor sableux ou bien une digue de sable, hein, avec du sable également que le projet Waka est allé chercher à 10 km des côtes. Et donc, nous avons réarrangé, rechargé toute la plage et pour permettre d'avoir une bonne plage. Voilà ce que nous avons fait au jour d'aujourd'hui au niveau de Waka. Mais comme vous l'avez dit, les travaux maintenant vont se poursuivre sur le segment Bodjomé à Godrafo prochainement.
Alors, merci beaucoup pour tout cela. Mais disons que l'année passée, nous étions ici à Godrafo. Je me rappelle que c'était la deuxième fois où nous sommes allés constater au niveau de la plage certains ouvrages mis en place. Vous parliez d'un instant des épis. Et entre les épis, il y a aussi de l'intervalle où il faut combler avec le sable de mer. Mais à notre grand étonnement, ce matin, lorsque nous sommes arrivés à Godrafo, on a fait un tour à la plage où on a constaté malheureusement une dégradation de ces ouvrages. Comment vous l'expliquez? Est-ce vraiment une dégradation?
Oui, c'est normal, vu de l'angle de nos techniciens, on va croire que c'est une dégradation, mais c'est un phénomène qui est naturel. Le rechargement de sable, je le disais tout à l'heure, c'est, nous le mettons en place d'abord pour remettre en place la plage, mais ça, pour rôle, je vais dire, très simple, de nourrir la mer, parce que les ouvrages que nous mettons en place, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour empêcher que la mer avance sur la terre, donc que la mer prenne la, nos terres et descende nos infrastructures. Mais la mer a besoin de sable pour fonctionner. C'est pourquoi vous allez voir que dans, partout dans le monde, les fleuves se jettent dans la mer et c'est les fleuves qui nourrissent les mers de sable. On est d'accord? Donc, nous avons mis en place le rechargement. C'est une sorte de petite nourriture, en fait, pour la mer. Donc, c'est logique, la mer doit venir chercher ça.
La mer a déjà tout bouffé?
Non, je vais vous expliquer. Donc, c'est un phénomène très dynamique. Un jour, il vient chercher, un jour, il amène. Mais nos ouvrages sont là justement pour empêcher que ça n'avance plus sur les terres comme ça faisait avant, descendant nos maisons, nos infrastructures. Non, la mer ne peut plus avancer avec ce que nous avons fait à Godrafo. Là où la mer était restée, au niveau de la falaise, ce que nous avons mené dans la ligne de croûte, ça ne bougera plus. Mais il y aura des périodes. Et c'est la période dans laquelle nous sommes, de juin, début juin à fin septembre, où les manifestations de la mer sont très très importantes. C'est tout à l'heure, peut-être on a les spécialistes de la météo aussi qui sont là, peut-être qu'ils vont vous l'expliquer. Où nous nous appelons, nous, dans nos atouts techniques, que c'est la période dangereuse en mer, en tout cas sur les côtes togolaises et béninoises, de juin, début juin à fin septembre. Et donc, en cette période, la mer souvent vient venir chercher du sable. Mais vous allez voir que dès que nous allons quitter cette période, les mêmes endroits que vous avez visités, vous revenez peut-être vers décembre ou vers début janvier, vous allez voir que ça va être encore rempli de sable. Donc, c'est très dynamique.
Mais merci, monsieur Zébio, vous permettez. Nous avons fait un petit micro-trottoir et nous avons entendu les gens dire que en comblant les casiers entre les épis, vous étiez allé chercher le sable en haute mer, et que ce faisant, vous auriez provoqué la mer, et que la dernière fois, le 19 et 20 septembre, la mer est venue chercher ce que vous lui avez pris sur la côte. Alors, comment pouvez-vous répondre à cela?
Oui, je crois que je le disais tout tantôt, d'ailleurs, comme mes prédécesseurs, le coordinateur national et autres, et c'est pour ça que nous sommes là, pour expliquer ce phénomène qui s'est passé dans la nuit du 19 au 20 septembre. Ce phénomène, on l'appelle la submersion marine. Ce n'est pas seulement au Togo, ça se passe, c'est mondial, hein, sur toutes les côtes, sur tous les terrains qui sont donc sur le littoral. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce phénomène, peut-être ceux qui sont un peu anciens dans la ville d'Anero, où, je le disais tantôt, la topographie par rapport à la mer, c'est presque le même niveau, donc ils ont déjà connu ça dans les années vers 1986-1987, et d'ailleurs, c'est, ou peut-être même avant, c'est ça qui a fait que le gouvernement avait déjà mis en place le brise-lames. C'est un phénomène naturel où, brusquement, de façon soudaine, le niveau de la mer, donc l'eau de la mer, monte. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement au Togo, hein, c'est sur toutes les côtes où le niveau de la mer monte de façon brusque et temporaire. Donc, comme l'eau monte, donc, ça sort de son lit et ça envahit tout ce qui est voisin. Donc, c'est une inondation vraiment temporaire qui est naturelle, mais qui est due à des phénomènes naturels qui peuvent, par exemple, des vents, des tempêtes, des cyclones ou des mouvements de terrain, donc des glissements de terrain, comme les tsunamis, etc., etc. Ça peut être des phénomènes, comment on appelle, dus à la marée, où vous savez que dans tous les pays, au niveau des mers, il y a les marées hautes et les marées basses. Et généralement, les marées hautes sont dues au fait de l'attraction forte que fait la Lune sur la Terre. Donc, à un moment donné, si la Lune est très proche, donc de la Terre, surtout là où il y a les océans, l'attraction est tellement forte que brusquement ça peut faire amener à monter le niveau. N'oubliez pas aussi qu'il y a le soleil, la terre qui tourne d'abord sur elle-même, et aussi le soleil qui gravite. Donc si la lune et le soleil et la terre se retrouvent et que le soleil aussi fait son attraction, mais la lune est plus forte, mais si les deux combinés se retrouvent au même endroit, là le niveau peut monter brusquement, ça peut aller jusqu'à 10 mètres, 12 mètres de haut. Donc c'est des phénomènes naturels soudains. Donc, qui arrive, et c'est ce qui s'est passé dans la nuit du 19 au 20 septembre.
Alors, ça fait immersion et à sauter avant le grand tam-tam pour parler donc de la submersion marine. Maintenant, moi, je voudrais revenir un tout petit peu sur les dégradations dont vous avez fait cas tout à l'heure. On a vu quelque part où la mer est venue chercher du sable et la profondeur faisait au moins 2 mètres. Pourquoi?
En fait, ce n'est pas la profondeur.
C'est-à-dire au niveau de la côte, oui. Quand vous voyez le sable qui est parti, oui. Au moins ça fait 2 mètres.
C'est le sable, c'est la falaise qui faisait 2 mètres. Donc c'est le terrain naturel qui est comme ça. Lui, il est venu chercher du sable, il est un peu avancé. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est compte tenu du fait que dans la nuit du 19 au 20, le niveau de la mer, le niveau moyen a augmenté. Malheureusement, on n'a pas les données statiques, a augmenté. Bon, c'est au niveau de l'Internet, les gens parlent de 4 mètres, donc a augmenté de 4 mètres. Donc, c'est en se retirant que ça a enlevé cette partie de la falaise. C'est une falaise naturelle qui existait, qui est le trait de côte. Donc, ça a enlevé cette partie en se retirant. Quand l'inondation est venue, quand les vagues déversantes retournaient dans la mer, ils ont enlevé cette partie. Mais comme je le disais, vous allez voir qu'avec le temps, quand nous allons quitter la période dangereuse de juin à fin septembre, avec le temps, le sable va revenir naturellement.
Heureusement que nous sommes en fin septembre. Oui. Alors, vous avez déjà parlé de l'immersion. Quelle approche de solution?
Oui, il y a plusieurs solutions. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces solutions, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des événements d'abord soudains, brusques, mais ça dépend aussi de la manière dont ça se produit, donc de l'amplitude du phénomène. Et généralement, on a l'habitude de le dire, nous, dans notre jargon technique, on ne peut pas dimensionner un ouvrage pour résister à n'importe quel phénomène. Ce n'est pas seulement au Togo. Hein. Immersion marine, vous allez aux États-Unis, ils vont vous dire qu'en 2015, par exemple, ça s'est passé à la Nouvelle-Orléans où on avait prévu des digues pour protéger la ville, mais c'était tellement allé haut, le niveau de la mer a tellement monté, plus de 10 mètres, que même les digues qui étaient prévues là-bas aux États-Unis, en Nouvelle-Orléans, ont cédé en 2005. Les digues ont cédé et
pourtant,
toute la ville
il y avait
a été inondée par la mer.
Un ouvrage de prévention.
Voilà, de prévention. Donc, c'est pour vous dire que, en fonction des données statistiques, on peut prévoir des ouvrages. Comme c'est le cas, par exemple, pour la ville d'Anéon, où le phénomène était déjà connu, où déjà l'État avait déjà mis en place dans les années 86 une brise lame derrière le palais royal, derrière l'ancienne cathédrale, que nous venons de renforcer en prolongeant de 200 mètres. En plus, toujours pour lutter contre ce phénomène au niveau de la ville d'Anéon, nous avons mis en place la digue de sable, le cordon sableux. Ceux qui ont l'habitude d'aller là-bas, c'est là sur lequel, sur cette digue, nous avons planté du gazon naturel qu'on appelle du rémimera, qui est en train de pousser. Donc, il y a des ouvrages qu'on peut mettre en place en fonction donc des données statistiques, en fonction des données techniques, pour lutter contre. Mais comme je le dis encore, vous avez vu, malgré que nous avons mis en place le cordon sableux à Ného, le phénomène qui s'est passé dans la nuit 19-20 a franchi la digue, mais n'a pas pu inonder les maisons. Donc, heureusement que la digue était là pour empêcher. Donc, il y a aussi d'autres solutions qu'on peut mettre en place. Je crois que la météo, ou bien le service ANPC, tout ça, peut-être tout à l'heure, reviendrons là-dessus. En fonction des données statistiques qu'ils ont, ils peuvent faire des alertes. Parce que quand on voit que le phénomène va dépasser les ouvrages de protection qui ont été mis en place, eux, ils font des alertes. On peut même demander à la population de quitter carrément la zone le temps que le phénomène se passe et ils vont revenir. Donc, il y a plusieurs types de solutions. On ne peut pas vous dire que tout de suite, dès qu'il y a submersion marine, il faut faire ça. Donc, ça dépend du cas et ça dépend de chaque zone.
Alors, conclusion, les ouvrages mis en place par Waka n'ont pas provoqué la submersion marine du 19, la nuit du 19 au 20 septembre.
Pas du tout, puisque au contraire, c'est ça qui a permis au niveau, en tout cas, surtout de la ville d'Anéon, pour que l'eau qui a subitement monté le rende comme d'habitude dans les maisons riveraines.
César Eusebio, je rappelle que vous êtes ingénieur, génie civil, côtier senior. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Monsieur Eusebio, restez encore en place. Merci beaucoup Jean-Marie. Monsieur Eusebio, une question.
Oui.
En novembre, quand nous étions ici même, vous-même et les ingénieurs de l'entreprise Boscalis, vous aviez dit que les travaux, les épis, étaient partis pour protéger la côte entre 20, 25, voire 30 ans. Est-ce que le phénomène du 20 septembre menace ces ouvrages-là sur la durée?
Non. Pour le moment, en tout cas, le phénomène qui s'est passé n'a pas du tout créé rien du tout sur les ouvrages, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, les ouvrages sont calculés en fonction des données statistiques. Et nous avons prévu nos ouvrages pour résister à des phénomènes qui ont des fréquences qui peuvent aller jusqu'à 50 ans. Et généralement, quand la fréquence de retour est grande, 50 ans, 100 ans, le phénomène a une grande ampleur. Donc, plus la fréquence de retour est très grande, quand vous dépassez 50 ans, vous allez à 60 ans ou 100 ans, l'ouvrage devient très gigantesque et très cher. Donc, ce qui a été mis en place est prévu pour résister à des phénomènes qui peuvent aller jusqu'à 50 ans. Donc, c'est pourquoi on a dit qu'au moins sur 30 ans, on est protégé. Et je vous rappelle que nous parlons de l'ouvrage physique qui est l'épi. Le rechargement en sable n'est pas concerné. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le phénomène étant très dynamique, la mer viendra chercher, redéposer, chercher, redéposer. Et à un moment donné, ça va finir. Et les calculs nous ont montré que après 15 ans, il faut forcément qu'on recharge encore, sinon il n'y aura plus.
Merci à vous César et Zébio. Sans transition, je passe la parole maintenant à Anoumou Félix Dossavi. Bonjour Anoumou.
Bonjour Sas, bonjour auditrices et auditeurs.
Merci, les travaux de Waka pourraient éventuellement causer des désagréments à celui-ci, à cela, à celui-là. C'est pourquoi il a été mis en place un mécanisme de gestion des plaintes. C'est ce que tu vas nous aider à mieux comprendre avec ton invité.
Monsieur Loukman Nadjari, bonjour.
Bonjour Félix, bonjour cher auditeur.
Merci d'être devant nous pour expliquer à la population et des éléments, disons, concrets. Et vous êtes en contact direct avec la population. C'est à travers le MEG, le mécanisme de gestion des plaintes. Alors, Monsieur Nadjari, qu'est-ce que c'est que le MEG et à quoi sert votre structure?
Merci, merci Félix. Et d'abord, c'est le MGP, C'est, oui, c'est connu comme ça. MEP. Le MEC, ça peut encore être ta confusion.
Okay.
Et comme vous le savez, et tout projet, à l'instar du projet WACA, peut-être sujet à la mise en œuvre dans sa phase de préparation à certains types de plaintes, à certaines sources de conflits liés à ces impacts socio-environnementaux. Donc, le citoyen lambda qui s'affronte à ces difficultés du projet, de la mise en œuvre du projet ou bien de fin de projet comme ce qui se passe ici, c'est de porter plainte en usant les voies de recours. Donc, d'où la mise en place par le projet d'un mécanisme de gestion des plaintes afin de permettre l'acceptabilité sociale du projet à l'échelle communautaire au niveau de toutes les parties prenantes. Et donc, de façon simple, terre à terre, puisqu'il faut expliquer ça aux populations riveraines, le mécanisme de gestion des plaintes, c'est le système là qui est mis en place pour résoudre les plaintes à l'amiable.
Voilà, plaintes à l'amiable.
À l'amiable. Donc, son objectif, c'est de susciter l'adhésion des communautés bénéficiaires et de toutes les parties prenantes à l'atteinte des objectifs du projet et de pouvoir maintenir un certain dialogue entre ces communautés et le MGP afin de pouvoir résoudre, d'anticiper sur la survenance des plaintes, d'éviter, et quand on veut déposer une plainte, que ce soit onéreux, et de faciliter l'accès du mécanisme aux groupes vulnérables, etc.
Merci beaucoup, Monsieur Nadjari. Et alors, quelles sont les différentes catégories de plaintes que vous gérez? Parce que, comme on le sait, quand on dit à la population, venez vous plaindre à nous, c'est ça, quand vous avez des problèmes, venez. Et c'est un mécanisme, disons, pour pacifier. Mais dans ce type de mécanisme, alors pouvez-vous nous dire les grandes lignes de ces plaintes que vous recevez?
Ok, merci Félix. D'ores et déjà, nous sommes à notre 59e plainte enregistrée et traitée par le projet. Et nous disposons de 5 étapes que nous observons dans le traitement des plaintes. Vous avez parlé des catégories, bien sûr, non, n'est-ce pas? Donc, nous avons de toutes les plaintes que nous recevons, nous pouvons les classer en 5 catégories. D'abord, les plaintes de la catégorie A, c'est des plaintes liées à la gouvernance qui peuvent se manifester par défaut de communication. Quand on ne comprend pas bien, quand il y a un défaut de communication, ça peut porter à une plainte. Voilà. Donc, quand on exclut aussi les groupes vulnérables ou les bénéficiaires de la mise en œuvre du projet, ça peut aussi faire objet de plainte.
D'accord.
Nous avons aussi la catégorie B qui concerne les plaintes liées au conflit de ressources, par exemple, des revendications de parcelles, des revendications de place, des restrictions d'accès à l'utilisation des terres et autres. Donc, toutes ces plaintes-là sont logées dans la catégorie B. D'accord. La catégorie C fait trait aux pesanteurs socioculturelles et des préoccupations liées au genre. Voilà, donc dans ces plaintes, nous parlons, par exemple, ils se manifestent par profanation des sites culturels ou culturels et autres. Donc la catégorie D, c'est des plaintes qui rassemblent les conditions de travail. Voilà, donc il faut que ceux qui travaillent dans le cadre du projet, dans ces chantiers, ces différents chantiers, qu'on suit à la lettre les normes du travail. Et il faut que aussi on prenne en compte le recrutement de la main-d'œuvre locale, par exemple. Donc la dernière catégorie, la E, elle regroupe toutes les plaintes qu'on n'aurait pas pu classer dans les 4 premières. Voilà. Donc c'est des plaintes liées aux désagréments, aux nuisances diverses, donc, qui peuvent aussi se manifester par les perturbations socio-économiques, les perturbations de la circulation quand on met en œuvre le projet.
Ok. Donc, vous avez en gros énuméré 5 types différents de plaintes.
Oui.
D'accord. Et en outre, comment est-ce que vous arrivez à gérer les plaintes que vous recevez? Parce que ce n'est pas facile. Vous avez dit, vous parlez de 59 et c'est classé différemment. Comment est-ce que vous les gérez?
Tout d'abord, nous avons entre-temps mis en place des comités de gestion des plaintes. Et à travers ces comités de gestion, nous gérons les plaintes en observant aussi 5 étapes. D'abord, c'est l'enregistrement. la réception et l'enregistrement des plaintes. Nous avons plusieurs canaux qui concourent à la réception des plaintes, tels que les boîtes à plaintes, pour ceux qui veulent s'inscrire dans l'anonymat. Voilà, vous dénoncez un fait du projet, mais vous craignez des représailles, donc vous voulez vous inscrire dans l'anonymat en allant discrètement déposer votre plainte dans notre boîte à suggestion.
Incognito.
Voilà, il y a ça aussi à la mairie ici, c'est la boîte verte. Voilà, il y a d'accord. aussi les plaintes écrites, par mail, des courriers physiques, des coups de fil. Tout ce qui s'est passé et ce qui s'est passé la nuit du 19 au 20, on a été alerté par des coups de fil. Voilà, donc nous avons la deuxième étape qui est l'accusé de réception, qui se situe à deux niveaux. D'abord, on vous notifie que votre plainte a été reçue, on vous rassure qu'un traitement diligent sera accordé à votre plainte. Mais après le traitement, si vous êtes éligible ou inéligible, on vous le notifie aussi une seconde fois.
Toutes les plaintes ne sont pas recevables.
Non, toutes les plaintes sont recevables, mais toutes les plaintes ne sont pas éligibles au projet OACA. Voilà, donc la troisième étape, c'est le traitement et l'éligibilité de la plainte. Donc, depuis le processus, nous disposons de 30 jours calendaires pour traiter les plaintes, suivant sa complexité. On demande même au comité de gestion des plaintes de s'adjoindre à eux des compétences requises lorsque une plainte est dans un domaine et qu'ils n'ont pas ces compétences-là, de faire recours à une expertise externe pour pouvoir venir les éclairer. Donc, la quatrième étape, c'est la résolution. La résolution, et lorsque toutes les parties en cause conviennent d'une solution, on parle de gestion à l'amiable. Donc, on va à la solution trouvée, à la mise en œuvre de la solution trouvée. Et la dernière étape, c'est le suivi de la mise en œuvre de la solution trouvée. Parce qu'il y a certaines solutions, ce n'est pas une action ponctuelle qu'on vient faire. Et ça peut prendre du temps jusqu'à à son achèvement. Je parle de la mise en œuvre. Donc, il faut un suivi régulier par rapport à ça. Et je rappelle que de tout ce processus, il y a une documentation vraiment qui accompagne de bout en bout et toute cette chaîne.
Ok. Voilà. Ok, monsieur Lukman Nandajari, une dernière question pour éclairer les auditrices et auditeurs. Le 20 septembre dernier, voilà, les côtes togolaises ont connu ce phénomène de submersion, cette immersion. Et comment êtes-vous arrivé à gérer la situation?
Merci Félix. Oui. Je profite de cette antenne pour remercier les membres des comités de gestion des plaintes au niveau local, que sont les comités d'Alogavi, d'Adissim, du canton d'Agoudrafort et de la commune de Lac 3. Parce que nous nous sommes à Lomé. Nous ne sommes pas sur la côte, nous n'avons pas l'information sur ce qui s'est passé la nuit. C'est grâce à leur réactivité qu'on a su que quelque chose s'est passé. Donc ils nous ont interpellés. Je disais les canaux tout à l'heure, par des images, par des vidéos, ils nous ont interpellés et rapidement on a dépêché une mission sur place pour venir d'abord apporter notre compassion par rapport aux victimes de ces aléas et aussi de les informer et de les sensibiliser plutôt, de prendre en compte toujours les prévisions météorologiques, puisque la météo donne des signaux d'alerte qu'il peut y avoir des événements, des phénomènes naturels exceptionnels qu'on ne peut pas résister. Et quand vous êtes informé, c'est l'information qui est d'abord essentielle. Quand vous êtes informé, vous prenez vos dispositions. Et mon prédécesseur le disait, si vous devez quitter et revenir plus tard, donc, vous avez l'obligation de vous mettre dans cette logique. Et surtout aussi de leur indiquer la structure appropriée. La structure appropriée qui est la NPC, l'Agence nationale de la protection civile, qui s'occupe des sinistrés sur l'étendue du territoire national.
Merci. Merci beaucoup, oui. Félix Anoumou Dosavi, à notre invité Lukman Nandajari, qui est revenu sur les mécanismes de gestion des plaintes. Comme pour résumer, si Waka, dans son travail, a pu affecter quelqu'un, il y a un dispositif que la personne se plaigne et ces plaintes-là, jusqu'à 59, qui ont été réglées à l'amiable, nous en prenons acte. Merci, M. Nandajari. Et puis, il a fait une transition vers notre prochain auditeur. Il a parlé des prévisions météorologiques, le temps qu'il fait, le temps qui change de jour en jour, le temps qui peut même changer plusieurs fois par jour, Dieu merci, la technique a permis le service de la météorologie, dont le directeur en personne nous fait l'honneur de nous rejoindre. Mais c'est Juliette Tomdem-Kamdem qui va nous faire découvrir notre invité et comment nous devons prêter attention à ses prévisions. Juliette.
Sas, merci. Ce numéro de Radio du Littoral, le cinquième de cette année, aborde justement la subversion marine. Quelle attitude adopter lorsqu'elle arrive? Et il est également question de prévision météorologique. Nous avons le directeur général de l'ANAMET. L'ANAMET, c'est l'Agence nationale de la météorologie. Donc, le directeur va nous faire découvrir son service, les prochaines prévisions, les attributions du service. Docteur Issaou Latifou, bonjour.
Bonjour, madame. Bonjour, les autorités de la localité. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Canal FM.
Merci quand même pour votre disponibilité. La première préoccupation, quelles sont les attributions de l'ANAMET, l'Agence nationale de la météo?
L'Agence nationale de la météo, météorologie, donc c'est cette institution-là au niveau national qui s'occupe de tout ce qui est la météorologie. La météorologie, c'est cette science-là qui étudie les phénomènes atmosphériques. Donc les phénomènes atmosphériques, quand on parle de phénomènes atmosphériques, on fait allusion en même temps à cette situation-là qu'on a vécue du 11 au 20 la dernière fois, donc c'est-à-dire la submersion, donc on va revenir là-dessus. Donc l'agence se charge de surtout élaborer ce que nous appelons les informations et de mettre ça à la disposition des populations pour prévenir les personnes et les biens. Donc étant donné que la mer constitue notre cible aussi, donc nous faisons aussi des prévisions en mer.
On va parler des prévisions en mer, mais avant, de quels canaux dispose l'ANAMET pour justement passer ces informations?
Plusieurs canaux sont utilisés, donc à travers les radios rurales. Donc les radios rurales, on est en contact avec ces radios à travers un certain nombre de plateformes, plateforme WhatsApp, qui à chaque matin et soir, nous les envoyons des informations qui diffusent au niveau des différentes radios, au niveau en langue locale, pour pouvoir permettre à la population de pouvoir avoir nos informations. On utilise aussi le canal de la télévision togolaise. Chaque jour, après le journal de 20h, il y a une présentation qui se fait au niveau de la TVT pour essayer de situer les populations au temps qu'il fera dans les prochains jours ou bien dans les prochaines heures. Donc, en dehors de ça, il y a aussi les ateliers, les bulletins, tout ce que nous faisons pour sensibiliser la population à l'utilisation des informations météorologiques.
Les prévisions qu'ils feront demain, après-demain, dans deux semaines justement, on en parle. À quoi doit-on s'attendre dans les prochaines semaines?
Oui, dans les prochaines semaines, on l'avait fait et puis on a eu à faire des diffusions, larges diffusions de nos informations. On a fait une prévision saisonnière dans le sud Togo. Si on parle du sud Togo, c'est depuis les environs de Blita jusqu'à la côte. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que cette zone-là est constituée de deux grandes saisons. Une grande saison des pluies entre avril et puis juillet. Et la petite saison des pluies aussi entre septembre et mi-novembre. Donc, le cœur même de la saison, petite saison des pluies, là, c'est le mois d'octobre. Donc, c'est dans ce mois que nous sommes en train de rentrer comme ça. Donc, cela voudrait dire que sur cette période-là, septembre, octobre, novembre, on aura une situation de pluviométrie qui sera de normal à accidentaire. De normal à accidentaire, cela voudra dire que la période sera beaucoup plus humide. Donc, on va enregistrer des pluies qui peuvent même dépasser la norme. Donc, depuis quelques moments, dans la ville de Lomé, au niveau d'Anéro ici, il y a certains pluies qu'on a enregistrées et que nous avions déjà annoncées. Donc, cela voudra dire que nous attendons cela au niveau du mois d'octobre. Donc, étant donné que le mois d'octobre est le cœur de la petite saison des pluies, donc il va falloir que les populations prennent des dispositions, soient vigilantes pour pouvoir essayer de pouvoir prendre des dispositions pour échapper, pour limiter surtout les impacts, les conséquences néfastes des pluies qui peuvent arriver d'une manière forte. Donc, on l'avait annoncé, donc on espère que les populations, à travers les différents canaux que nous utilisons, les populations vont prendre des mesures.
Le mois d'octobre, c'est le cœur de la saison pluvieuse dans cette région. Mais aujourd'hui, nous parlons de la submersion marine. Est-ce qu'avec les équipements de l'ANAMET, ce phénomène aurait pu être, sa prévision aurait pu être réalisée?
Oui, il faut dire par rapport à la définition de la submersion, c'est les inondations, c'est le déferlement des vagues sur le continent. Donc, étant donné que l'ingénieur l'a rappelé ici, étant donné que notre côte togolaise est beaucoup plus basse et n'étant pas une falaise rocheuse, donc on est toujours exposé à cette élévation de la mer. Et cela se dit à tout moment, quand on parle de changement climatique, la chaleur que nous observons, cette chaleur-là entraîne ce qu'on appelle la fonte des glaces, donc au niveau des pôles, et le niveau de l'eau au niveau de la mer s'augmente. Quand le niveau de la mer s'augmente, cela voudrait dire que les côtes qui sont vulnérables, qui sont en bas du niveau de la mer, sont victimes de ce que nous appelons la submersion marine. Et c'est ça que nous, à des moments, et on l'a rappelé, de juin à septembre, c'est la période critique au niveau de notre côte par rapport à l'augmentation du niveau de la mer. Donc, comme l'a dit, l'État est en train de faire des efforts, et actuellement, au même moment que nous sommes en train de parler, aujourd'hui même, en mer, actuellement, il y a certains de nos techniciens qui sont en train d'installer ce que nous appelons le courantomètre. Le courantomètre qui va permettre de pouvoir prévoir en 2-3 jours ce que nous appelons l'augmentation du niveau de la mer, l'augmentation de la vague et des houles, pour pouvoir prévenir les populations pour que les dispositions soient prises. Donc nous remercions ici le projet WACA qui est en train de financer cette activité-là. Et hier même, on a fait ce que nous appelons la réception provisoire de la station déjà installée. Actuellement, on peut vous donner la température, on peut vous donner la pression, on peut vous donner la direction et la vitesse du vent sur la côte d'Anéro, qui couvre depuis Anéro jusqu'au port. Et il y a aussi une station qui couvre le port pour augmenter, pour amplifier la sensibilisation auprès de la population, pour leur donner des instructions. Quand faut-il aller en mer? Quand faut-il pas aller en mer? À quel niveau il faut aller pour pouvoir éviter des conséquences beaucoup plus néfastes?
En termes clairs, l'ANAMET est en train de mettre vraiment des équipements pour aller à une échelle supérieure de où nous sommes en ce moment. Mais est-ce que nous pouvons savoir avec quel équipement et où précisément en sommes-nous aujourd'hui avec les activités de l'ANAMET?
Bon, par rapport à la côte, on a plusieurs équipements, hein, les équipements terrestres. On a aussi les équipements aériens, mais étant donné que l'émission concerne la côte, on vous rassure qu'actuellement sur la côte togolaise, c'est une exception au niveau pays, parce que sur une distance de 50 km que compte notre côte, on a déjà 4 stations météo marines. 4 stations météo marines qui vont être opérationnelles dans les mois qui vont suivre. Donc toutes les dispositions sont en train d'être prises pour pouvoir essayer de donner l'information beaucoup plus fiable aux populations riveraines.
Merci à vous, directeur général de l'ANAMET. Ce que nous pouvons dire à nos populations, puisqu'il y a non seulement les populations qui habitent la côte, mais il y a également beaucoup qui s'installent pour leurs affaires, les barres et consorts. Il y a aussi et surtout les pêcheurs. C'est suivre les prévisions météorologiques au jour le jour pour savoir quel temps il fait aujourd'hui et quel temps il fera demain. Mais Juliette, nous continuons avec ton prochain invité. Je ne sais pas si tu as
exactement
déjà...
Exactement ça, si j'ai le micro, je le garde. Mon prochain interlocuteur, notre personne ressource, nous vient de l'ANPC, l'Agence nationale de la protection civile. Et il s'agit précisément de Dr Nelson Akibore. Il est le directeur de la prévention, de la coopération et des affaires humanitaires à l'ANPC. Monsieur Nelson Akibore, bonjour. Docteur Akibore, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous recevez?
Allô?
Allô, docteur Akibore? Nous sommes en direct de Agbodrafo, où l'émission, le cinquième numéro de Radio du Littoral, aborde la subversion marine. Quelle attitude les populations doivent-elles adopter quand elle arrive? Et nous avons justement profité de l'occasion pour vous avoir à nos côtés pour savoir concrètement l'Agence nationale de la protection civile, quelles sont ses missions.
Oui, merci. Merci beaucoup pour la préoccupation. Alors, pour aller voir, je vais vous dire que le gouvernement, dans le souci du bien-être des populations, de façon générale et en particulier, des populations vulnérables aux différents aléas, pour une gestion efficace, concertée, risques de catastrophe a créé ou a mis en place par décret l'Agence nationale de protection civile depuis janvier 2017 et elle est opérationnelle, a été mise en opération la même année et travaille de concert avec les différents acteurs. Donc cette agence, le gouvernement lui a donné mandat de la mise en œuvre de sa politique nationale de protection civile. Et donc pour les questions de risque de catastrophe, que ce soit la prévention, la préparation et la gestion des urgences, l'Agence nationale de protection civile assure le leadership en étroite collaboration avec les différents acteurs, les différents sectoriels concernés et impliqués dans la gestion des risques de catastrophe.
Docteur Akiboré,
voilà. Oui,
docteur Akiboré, la protection civile, elle implique donc la prévention, la protection elle-même et puis la gestion des catastrophes quand ils arrivent. Dans le cadre de cette dernière montée, la montée des eaux dans la nuit du 19 au 20 septembre dernier, qu'est-ce qui a été fait? Quelles sont les démarches entreprises par l'Agence nationale de la protection civile?
La nuit n'est pas...
Docteur Akiboré, vous ne nous recevez pas.
Oui, est-ce que vous pouvez me reprendre rapidement?
Oui, après la dernière submersion marine à Gbodrafoye, à Neho, qu'est-ce que l'ANPC a fait ou qu'est-ce qu'elle fait en ce moment même?
Oui, pour la gestion de la zone côtière, en ce qui concerne les questions de catastrophe, les interventions de l'ANPC s'expriment ou sont organisées en trois étapes, c'est-à-dire en amont, pendant et après. En amont, c'est-à-dire avant, l'ANPC travaille avec les communautés à l'effet de les mettre en alerte, de les sensibiliser à travers des campagnes de sensibilisation, de sorte que les communautés intègrent dans leur vécu quotidien ce risque auquel elles sont exposées, afin de leur éviter des situations désastreuses. Maintenant, pendant la situation, s'il y a catastrophe, l'ANPC intervient. Bien sûr, avec le gouvernement, à travers l'ANPC, intervient pour apporter assistance à cette communauté. Et dans cette assistance, bien sûr, les assistants du vivre non vivre, mais aussi les cas de relogement. Vous n'êtes pas sans savoir de quelle manière le phénomène d'érosion côtière dans cette partie est en train de détruire le territoire et il y a des besoins de relogement. Donc le gouvernement procède au relogement de sa communauté. Et après catastrophe aussi, des actions sont toujours menées pour assurer aux populations des retours des situations désastreuses.
Docteur, ça c'est de façon générale la démarche qu'adopte l'ANPC lorsqu'il y a catastrophe. Mais dans notre cas d'espèce, avec la dernière montée à Goudrafoye et à Nihon, qu'est-ce qui est fait, Doc?
Je n'ai pas reçu.
Docteur, vous nous recevez?
Oui, allez-y.
Oui, votre intervention, vous nous aviez dit globalement la démarche que l'ANPC adopte lorsqu'il y a catastrophe, lorsqu'elle est interpellée sur un terrain. Mais dans notre cas, avec la submersion marine de la dernière fois, d'il y a une dizaine de jours, qu'est-ce que l'ANPC a fait précisément dans ce cas à Goudrafoye et à Aniho? Vous nous recevez, docteur?
La question vient très difficilement, hein?
Alors, docteur Akibore, nous excusons pour les aléas du direct, ce qui fait que la communication n'est pas très fluide. Et malheureusement, le temps imparti également vient d'être épuisé. Souffrez que nous vous coupions, mais rassurez-vous, nous allons nous retrouver prochainement dans une autre édition de la radio littorale, parce que la question est toujours d'actualité. Eh bien, pour faire le point ici, oui, nos côtes sont fragiles, nos États sont conscients. Et le Togo, avec ses partenaires, a mis en place le projet Waka Recip. Les travaux sont en cours et vont continuer. Mais ce qui a été fait, c'est parti pour nous sécuriser encore 20, 30 ans et plus. Mais entre-temps, on peut avoir des accidents de la nature, dont la subversion marine. Ce n'est pas la provocation des dieux de la nature. C'est un phénomène naturel, mais qui n'entache pas nos ouvrages. Mais attention, le temps, il est évolutif. C'est pour nous devons suivre. Nous sommes invités à suivre les prévisions de la météorologie par ces divers canaux au jour le jour. Et puis, s'il y a catastrophe, l'État a mis en place l'Agence nationale de la protection civile. Malheureusement, on n'a pas pu en débattre beaucoup plus en détail, mais nous y reviendrons. Il est midi, nous observons une pause, le temps d'adresser un clin d'œil à nos partenaires et nous revenons avec vos commentaires et vos questions. Le public ici peut intervenir ou les auditeurs peuvent appeler sur le 91 36 63 75 dans un petit instant.
93.5 Canal FM.
Eh bien, nous revenons ici à Goudrafoye. Mille gba blombe à Goudrafoye mileya et egbe mille à Goudrafoye le radio littoral be dona. Nyatie nyimbe ne klikha vabiji allo a fuja gboare allo nono rovavare. Miamo yono le dwa me veto a futare le kemia oro. E nu yomi ogban nyimbe mi ho a me pepe vovovo. O blona nyimbe a fule anyigba ho le miasi. Et Jidoudoua, Dwebe, Odo, projet Waka, Benoa, Onado, Ntutudo, Noasa, bloqué, Afoua, Nangbano, Anigbandi, Vanko, Voa, Klik en top, Afokudole, et n'y a qu'une va join, Polotia, Shekea, Benkeke, oui, Sheke, Sena, Blava, 19, 20 septembre, Afoua va Jago, Kakao, Vado, Anigbandi, Mia Biosebe, Waka, Medo, Onoa, wakame do wa ena fwa biji ao technicien de mon ami ao nous kené jonchova ya clique en top ma accident et ma jonna gbesia gbovoa e vanaji jiji et donc e wakawa e gba lete la protéger mi contre érosion ne posuboro voa kozo clique le changer en clique changer la jiji ya mi an otodon météo et puis ce météo le mien c'est le Togo et reyi kenava va cho allo nkekodo ma au bon ennemi que mien no todi à nous suivre météo ma prévision au chapena fokuro va joa jidu bagbado ANPC ichayi e chavana sokurne ameyoji jobovendo joroa mi meten grofima sokbovoa mi la va trovaji que fifia gravanami mi amion le filo allo au bout des ondes on peut à présent intervenir en appelant sur le 91 36 63 75 ou bien le public ici pour poser des questions à l'un ou l'autre invité ou bien émettre un avis. La parole est là à qui veut la prendre avec l'aide de la technique. Et on peut poser la question en français ou en guin. miatien o babiao le yevu gbemelo français gbemelo allo mia de gbeme amre le kama. Allô, auditeur en ligne.
Oui, allô.
Bonjour. Bonjour, c'est monsieur.
Oui, bonjour Canal FM.
Oui, c'est monsieur.
C'est monsieur Joseph de Piamoutier-V.
Joseph de Piamoutier-V, mi le todi.
Oui, vous avez parlé de bon, je salue tout le monde, hein.
Oui.
J'ai invité tout le monde. Vous avez parlé à propos de l'ANPC là.
Oui.
ANPC, c'est pour venir en aide aux sinistrés.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Mais il y a de constater que l'ANPC cause lui-même des sinistrés.
Ah, l'ANPC cause des sinistrés.
Oui, lui-même. Là,
lui-même. Ah, comment?
Au niveau de Atikoumé, il a exproprié un terrain auprès d'une famille là-bas. Et ils n'ont même pas dédommagé, ils ont expulsé tout le monde.
Ils
ont pensé de construire leur siège là-bas.
Oui.
Est-ce que l'ANPC peut expliquer ce genre de choses à la population?
Ok, l'ANPC qui cause elle-même des sinistrés, heureusement ou malheureusement, docteur Akibore n'est pas à nos côtés, mais s'il est en ligne, qui nous écoute, il pourra toujours entrer en ligne à tout moment. Merci à l'ami Joseph. Le deuxième auditeur. Oui, Michel. Ok, un auditeur ici sur place.
Allô?
Oui, allons-y rapidement.
Bonjour, monsieur. Moi, c'est Godson Ketomana du journal Liberté. Si j'ai bien entendu le premier invité que vous avez interrogé, il disait que les ouvrages sont calculés en fonction de données statistiques. Ce matin, nous étions à la plage et monsieur Sass même l'avait déjà relayé. L'image présentée n'était pas très agréable. Alors, je voudrais savoir s'il est possible qu'on nous dise, par rapport aux prévisions initiales qui disaient qu'on devrait construire ou installer une cinquantaine d'épis sur la plage, dans cet espace, et après, par rapport aux contraintes budgétaires, le nombre a été réduit. Pensez-vous que cette réduction pourrait avoir des effets sur les casiers qui ont été rechargés? Je vais dire, si c'était 50 épis, quel aurait été l'espace entre deux épis par rapport au nombre d'épis retenus aujourd'hui? Merci.
Merci beaucoup, Godson. Sûrement que M. Ezebio doit avoir pris bonne note de la question. Y a-t-il un auditeur? Auditeur en ligne? Ok. Un auditeur ici sur place. Bonjour, l'ami. Rejoignez-nous, s'il vous plaît. Oui, c'est monsieur Apoto.
C'est Anikoué.
Abassa Nikoué. Abassa Nikoué, oui.
Ouais, je suis le président de la commission environnementale à Boutafo, Sévéré.
Oui.
Bon, ma préoccupation et ma question s'adresse à monsieur Ezebio.
Oui.
Avant le démarrage des travaux, monsieur Ezebio nous a rassuré qu'il y a un recul de la mer de 500 mètres.
500 mètres.
De 500 mètres. Okay. Aujourd'hui, cet espace n'est pas respecté. Je voudrais savoir pourquoi cela n'a pas été respecté. Merci.
Merci beaucoup, M. Ezebiela. Est-ce qu'il a fait cette promesse-là? Si oui, pourquoi la promesse n'est pas tenue? Prochain auditeur, allons-y rapidement, s'il vous plaît. Auditeur en ligne? Oui, ok. Monsieur Anyama.
Oui, ça. Nous écoutons. Merci. Je voudrais juste intervenir pour remercier la coordination pour la promptitude avec laquelle ils ont pu organiser cette émission. Parce que, à la suite de la submersion marine, il y a eu beaucoup de confusion. Je crois que les explications données par les techniciens tout à l'heure nous ont rassurés. Parce qu'effectivement, on a été tenté de croire que c'est les travaux qui ont causé cette submersion. Et même auprès des populations, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est comme si la mer s'est fâchée avec tout ce qu'on a, parce que nous avons la science que la mère n'aime pas qu'on la bouscule sans son autorisation. Donc, l'émission, avec toutes les informations que nous venons d'avoir, nous permettent vraiment, à nous, en tant que membres du mécanisme de gestion des plaintes, de pouvoir donner les bonnes informations à la population et surtout de profiter des informations de la météo, de mettre en place au niveau de la chefferie de la mairie un système qui puisse informer vraiment à temps les pêcheurs et les populations côtières. Parce que souvent, sur nos portables, c'est pas ça que nous cherchons. Merci.
Akolo Labalé, autre auditeur, auditrice. Nous avons quand même nos mamans ici, hein. Mia non, mia sron, mia dadao, gbele mia sié, gbele mia bo. Ok, en attendant le prochain auditeur, monsieur Eusebio, interpellé sur deux sujets. Commençons par, est-ce que vous avez promis que la mer reculerait de 500 mètres avant les travaux, oui ou non, monsieur Eusebio?
Merci, Sas. Je ne sais pas où l'auditeur a trouvé cette information. Comme je le disais tantôt, nos ouvrages ne sont pas là pour reculer la mer. Au contraire, j'avais dit que ça empêche la mer de continuer par avancer dans nos terres, donc par descendre nos infrastructures, nos maisons, nos cimetières, comme ça le faisait. Donc avec les ouvrages qui sont mis en place, la terre ne peut plus la mer, c'est sur nos terres. Bien sûr, peut-être que l'auditeur a dû entendre parler de quoi de notre projet, parce qu'il y a aussi d'autres projets, d'autres ouvrages qu'on peut mettre en place en mer pour gagner derrière la terre. Et souvent, c'est ça qu'on appelle les brise-lames. C'est-à-dire les brise-lames, c'est des ouvrages qui sont longitudinales à la mer, c'est-à-dire parallèles à la mer, donc, mais qui coûtent plus cher que les épis que nous avons mis en place. Quand vous le mettez en mer, vous avez vu la force de la mer, donc ça doit être des ouvrages très gigantesques, très robustes, et donc ça coûte excessivement cher. Et ces ouvrages, une fois que vous les mettez en place en mer, ça peut faire gagner la terre sur la mer, et puisque par derrière, vous pouvez remblayer pour avoir de l'espace. Merci. Mais sinon, le projet Waka n'a pas prévu gagner la terre dans la mer, non.
Merci.
Mais c'est empêcher que le trait de côte bouge.
Les premières études avaient prévu 50 épis entre Agodrafo et Anejo. Mais vous n'en avez réalisé que 13. Et puis, est-ce que ça aurait éventuellement des incidences sur les épis réalisés aujourd'hui?
Oui, cette question, je vais essayer de l'expliquer pour que l'auditeur comprenne bien. Effectivement, l'étude de faisabilité technique a prévu donc de Bojomé jusqu'à la frontière. Donc sur 25 km de côte, 50 épis. Et dans les 50 épis, c'était prévu. Il y avait déjà 12 qui existaient, qui avaient été déjà mis en place par le gouvernement. Donc c'était prévu donc, à réhabiliter 12 dans les 50. Donc dans les 12 qui étaient prévus, nous avions déjà réhabilité, donc dans les 12, c'est ceux qui existaient à Anejo. Nous avons déjà réhabilité et allongé 6. On est d'accord? Même si on n'a pas toujours 6 autres, il y a quand même les 12 qui sont déjà là dans les 50. On est d'accord? Maintenant, nous avons déjà construit 7. Donc, 7 donc plus 12, ça fait déjà 19 sur les 50. Et j'ai dit tout à l'heure que le gouvernement a réussi à obtenir le financement avec l'AFD et Invest International de Hollande pour le segment de côte Bojomé à Bodrafo qui fait 7 km. Là-bas, l'étude a prévu pour ces 7 km de construire 20 nouveaux épis. Et donc, prochainement, les 20 nouveaux épis qui vont s'ajouter, donc tout à l'heure, je parlais de 12, plus 7, donc 19, donc plus les 20. Donc, et en plus de ça, on prévoit également renforcer entre Pémé et Goumoukopé avec également 6 autres épis, donc ce qui fait qu'au total on s'approche donc des 50. Au total, je crois, on sera autour de 47 épis pour le moment avec le financement qui est disponible, donc sur les 50. Donc c'est pour vous dire que le gouvernement, à travers donc le ministère de l'Environnement et le ministère donc de la Protection côtière, fait donc son boulot, et à la longue, quand le projet Waka, je crois, va finir, les 25 km de côte seront
merci,
réellement protégés.
Même si on n'atteint pas 50, on va tendre vers Là-dessus, M. Kouadou, rapidement, s'il vous plaît.
Oui, en fait, l'essence de sa question, c'est de savoir si, parce qu'on n'a pas fait les séquentes, est-ce que ça a dû réduire l'espacement entre les épis?
Oui.
Ce que je veux expliquer, le design est resté le même. Ce n'est pas parce que nous avions fait 14 ou 13 sur les séquentes que ça a réduit l'espacement, non. C'est un design qui est là, c'est-à-dire que dans ce cas, on fait en sorte de faire les épis là où il y a beaucoup d'enjeux. Donc là, il n'y avait pas des enjeux très importants, c'est ça que nous sommes en train de faire maintenant. Donc le design est respecté, le fait de ne pas avoir fait les séquentes n'a rien modifié au design. Donc les écartements sont ceux qui ont été prévus et on n'a pas réduit ni allongé les écartements entre les épis. Si les séquences devaient se faire, c'est le même écartement qui a été adopté, qui serait adopté.
Merci beaucoup, voilà. Monsieur le coordonnateur. Nous allons recevoir une dame, notre maman, notre femme, notre soeur, notre... Madame, bonjour.
Bonjour, monsieur. Je suis de couleur. Je suis Eviam Agnès.
Eviam
Agnès.
Agnès.
Yo madakuku mada akpana mer bubuto yabe fia bubuto ple amakpekpeo ple mia domato de sia de ke pogo mo le te pe mi da akpana mawude wo kata wo bagbeta enye jijo gare nambe oyomi va te pe e kama mu sia mu ike ogblo edo goma sese aromi se goma azombe pe yi o dena mia mi po jijo sugbo ela be nu yo jo ni cho over yi alo nu yo jo na chan afi over de pe na mia mi ba wo je si dede are be na manye be pe ya o dena mi o de o hin egbe ya wa afu anya mi ama sugbo o de mu ke ma ape dongo eye ga cho ye ji a o na mi enya be na nye be over de pe a ekema o ma wo mo dede adekebe amareke naga wo nana kada futa ro mo khare ka naga no futa o kaka je si dede mi wo enye be over 2 months ami aro over hemo gbogbo de onami alebe mo dede magalibe afiye wo o je na goro wo gavatem aje goro afi mi asuron ro itoji gbova watem aji goro aro nenye be dogo la pomme na opa ave akpo aputa modede adeke magalio kama do ko majibe macho egbana miabe amapepe bubuto mer bubuto kle fia obe opo afima na owo na mi ape
afa no ape kaka la question de la dame pour la résumer les incidences des travaux de Waka sur l'activité de pêche. Monsieur le coordonnateur ou bien Monsieur Eusebio, une réponse à son endroit.
Vraiment, merci beaucoup parce que la question des pêcheurs est une question très importante. Et il faut dire de toute évidence quand même que les travaux qui se font ont un impact sur les pêches. On en est conscient. C'est pour ça qu'il est en train d'être développé actuellement un projet social qui prend en compte l'appui apporté aux pêcheurs pour leur permettre dans le cadre, c'est-à-dire que dans l'adaptation au contexte qui va se créer avec les travaux ou les ouvrages qui sont là, comment est-ce qu'ils peuvent continuer leurs activités, comment est-ce qu'ils peuvent l'améliorer et les appuis nécessaires pour le faire, c'est ça que le projet est en train de faire à travers le projet social qui va, le projet est en cours d'élaboration. Il est développé certainement d'ici le mois d'octobre. On aura une visibilité claire par rapport à ça et peut-être procéder au lancement. Donc il y a cet appui qui est prévu aux pêcheurs, aux maraîchers, aux marailleurs, qui sont vraiment les principales activités qui sont impactées par les travaux. Donc je crois que c'est pour rassurer madame que ça a été pris en compte et que des appuis vont être faits à la communauté des pêcheurs, des marailleurs et des maraîchers qui sont des activités très très sensibles.
Merci, monsieur le coordonnateur. Une ultime question à répondre très rapidement. Maintenant que nous rechargeons la plage avec les casiers, est-ce que nous pouvons venir continuer à enlever le sable sur la plage? Monsieur Eusebio, en une phrase.
Non, parce que on n'a peut-être pas été aujourd'hui en profondeur je le disais quand même que la mer a besoin de sable pour son fonctionnement. Mm-hmm. C'est ce que nous appelons la dérive naturelle des sédiments. C'est pas seulement sur nos côtes, hein. C'est toutes les mers, tous les océans, ils ont besoin de ces sédiments pour fonctionner sur nos côtes. Donc, ces sédiments circulent donc côté Ghana de l'ouest vers le Bénin l'est. Et j'expliquais que l'érosion, c'est ce déficit de sédiments que la mer ne trouve pas, que la mer vient chercher à terre. Et c'est ça qui fait tomber nos maisons, nos infrastructures. Mais si nous-mêmes, nous allons chercher ce sable et qu'il n'y en a même plus du sable à la plage, la mer va se nourrir de quoi? Donc c'est pourquoi ce n'est pas normal d'aller chercher le sable.
Mia veut donner, mia no que l'on la fouta, annonce à sa main, menyo. Ne mi le que l'on la fouta la que, nyonto, mia ma poe, ma mi le bagma mema. Et que qu'il la fouta, c'est pour stabiliser la côte. Donc pour dire que il est fortement déconseillé d'aller prélever le sable sur nos côtes. Je sais que le maire a du travail dans ce sens-là pour continuer à sensibiliser. Menyambe a peut-être dans le miadji. Ne mi anong ngomo denami be mi mano que l'on la fouta ne mi le que l'on marque de apata o jiru douala mi le tout foyer ma akpe. Heureusement, malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Monsieur Nadjari, exceptionnellement en 30 secondes.
Ok, yanjive mado mi anobe question anti sokudo et que mi apeto coordinateur bagbuna mi anale mobena. Et que mi tu et puis SBO wabe hong batevale jagole chapoajo njibe ma aso donkuji na mi akpata benade. En fait ana mi le projet mi na mi va recenser na wabe préoccupation o sibele ko ji na o le ji benade o no o keke plage anawa no so système wa brise la me o la tu no tu brise la ma et les longitudinal na kota e hunde gbugbe ma gbateva yeke o enti mi prévoir et puis o. Et puis, au B4, il y a une distance, et puis distance, il est au moins 350 mètres. Entre 350 mètres, au moins, on l'a fait. Donc, il y a une sorte de Guinée.
Merci beaucoup, M. Nadjari. Malheureusement, il y a une bonne chose. 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 Mais ça s'est accolé à Denlia.
Dès que je suis arrivé, je suis arrivé à Sokpe. Au Bronzare, je suis arrivé à Koukou, à Lokola, à Prota, à Gbassova, à Nouveau, à Banana, à Lessive, à Tomile, à Bam, à Horne. Je suis arrivé à Dekpo. À moi, je suis arrivé à Dekpo, à Gravier, à Lessiame, à Zanzan, à Zanjare, à Sosa, à Hotula, à Wancha. Et le VVD, il y a un docteur qui dit, et pour moi, je suis
un peu comme ça. Nemi le gravier, allo, cordon la fouta, oh, c'est bien, toi, il y a un peu comme ça, que nous, on pas tant en waka, la dirou douala, mais là, tu foin. Après, nous arrivons au terme de cette émission. Je remercie tous les confrères, co-animateurs, toute l'équipe de radio du littoral, le grand public. Mais je vous prie de nous mettre ensemble pour remercier ce grand public. Appelez-toi, mes anciens collègues à Delia et également le maire, par un tonnerre d'applaudissements qui va être écouté jusqu'à New York, beaucoup plus fort, jusqu'à Sydney en Australie. Akpe. Merci beaucoup. Merci, monsieur Le Cordo. La prochaine station de la région du littoral, on en parle ici ou bien on attend? On attend d'abord. Eh bien, nous le séjour en temps opportun. Merci beaucoup à nous tous.